Mesdames et messieurs, je suis absolument ravi de vous accueillir à la galerie Mola pour la présentation d'un excellent ami, d'un vieil ami, Gabriel Masneff. Je suis particulièrement ému ce soir d'avoir à dialoguer quelques minutes avec lui. Pourquoi cela? Parce que Gabriel Masneff est, selon moi et selon d'autres, l'un des derniers grands écrivains chrétiens de la littérature française.
Chrétien.
Chrétien. C'est un esprit érudit, pétri de culture antique, dont le tempérament et le caractère sont ceux d'un stoïcien. Peut-être que le qualificatif d'être quelqu'un qui est dans la synthèse, dans le syncrétisme, lui convient peut-être mieux. C'est un écrivain, un grand écrivain, qui n'a cessé d'être en butte à un ordre social et aussi à une société littéraire qui dénie la chair pour célébrer les avatars du corps. Et qui, cette société, y compris la société littéraire, se complaît dans l'amnésie en ignorant qu'il y a nécessairement une généalogie de la pensée, que les choses n'apparaissent pas ainsi. Pour moi, comprendre l'œuvre et l'itinéraire de Gabriel Masneff suppose de les examiner à partir au moins de trois ou quatre points. D'abord, la conception de l'amour. Et cette conception de l'amour est inséparable du divin et de la figure du Christ. Il me semble qu'il y a un autre angle que nous pouvons retenir, c'est celui du tableau de la guerre que se font les hommes et les femmes autour de la sexualité, de l'intime et du charnel. Il me semble aussi que l'on comprendrait mal l'œuvre de Gabriel Masneff si l'on oubliait que celle-ci est inscrite très solidement dans une culture. Et cette culture, on n'y comprend que peu de choses si on occulte qu'elle est inséparable d'un pays, d'un peuple et d'une histoire qu'on peut résumer en un mot, la Russie. Enfin, il me semble que cette œuvre, elle est l'œuvre d'un écrivain qui a une patrie et qui est une patrie mentale. Et cette patrie mentale, c'est l'écriture. Cette œuvre se déploie dans différents registres. Elle est l'œuvre considérable, une œuvre considérable d'un diariste. Vous me corrigerez, 37 années. Publié, 18 années inédites, c'est considérable. Ce mois-ci, cette année, Gabriel Masneff fête ses 50 ans d'entrée dans la littérature, son 50e anniversaire d'entrée dans la littérature. C'est un diariste considérable, un romancier. La lettre au capitaine Brunner est son 9e roman. Un essayiste, un poète aussi. Et je pense que cette œuvre a, je sais que je vais le froisser, une valeur éthique. Je ne dis pas morale, mais éthique. Et qu'à bien des égards, on ne peut l'appréhender avec justesse que si l'on songe qu'elle est l'œuvre d'un être tolérant, d'un être libre et d'un être qui a beaucoup lu Schopenhauer. Gabriel Masneff. Comment réagissez-vous à cette présentation qui n'est pas exhaustive, mais qui s'est voulue à la fois objective et affectueuse?
Écoutez, je sais très bien que vous parliez de mon éthique. Vous avez raison, je suis. Non, ça m'a amusé parce que quand vous avez dit que. Donc, quand vous disiez que chez moi, l'amour est inséparable du divin. Ce qui est exact, je vais vous dire pourquoi ça m'a amusé, mais j'ai d'ailleurs pour répondre sérieusement, je pense effectivement que l'on peut, il y a deux voies sur Terre, pour nous, hommes, d'apercevoir fugitivement ce que pourrait être le divin, et quand je dis pourrait être, je veux dire que même un athée endurci, pourrait avoir cette sensation. Les deux voies, c'est l'amour et c'est la beauté. Ce sont les noms humains de Dieu. Bon, ensuite, si on est chrétien, il y a d'autres religions ou d'incarnation, mais le christianisme n'est pas la seule. Mais enfin, disons, le christianisme, ce qui est intéressant dans le christianisme, c'est l'esprit qui se fait chair, c'est l'incarnation. Sans ça, c'est la morale chrétienne, on a rien à ficher, on n'a pas grand-chose à ficher. Je veux dire qu'il y a des morales très supérieures, vous avez parlé des stoïciens, vous avez parlé des épicuriens. Non, là, ce qui est intéressant dans le christianisme, c'est l'incarnation et aussi, évidemment, la résurrection, mais enfin, bon. Mais ce qui m'a fait sourire, c'est que j'avais une jeune fille que j'ai beaucoup aimée et qui m'a inspiré. C'est pour ça que je vous en parle, c'est parce qu'elle m'a inspiré plus de 2 livres. Elle m'a inspiré un journal intime chez Gallimard qui s'appelait « La prunelle de mes yeux » et un roman qui s'appelle « Harrison Plaza » et qui, lui, avait paru à la table ronde, plus plusieurs poèmes que j'ai recueillis dans un réel. Eh bien, cette jeune fille était très anticléricale. Elle n'était pas... À l'époque, elle avait 14, 15 ans, 16 ans. On est resté plusieurs années ensemble. C'était une très, très grande passion. Et Vanessa, puisqu'elle s'appelait Vanessa était très anticléricale. Elle n'avait jamais été chez les bonnes sœurs, ni chez les Jèzes, elle n'avait jamais souffert des curés, elle n'était dire même pas baptisée, parce que je crois que ses parents étaient agnostiques, et elle faisait, ben non, elle ne l'a pas fait baptiser, mais elle était très anticléricale comme ça, abstraitement, et une fois nous étions, à l'époque j'habitais à l'hôtel Taran, un tome de mon journal qui s'appelle « Les demoiselles du Taran », eh bien Vanessa, nous étions au Taran, et il y avait un reportage à l'émission religieuse orthodoxie que j'étais un des créateurs, mais j'en m'occupe plus depuis très longtemps, à Antenne 2. Et il y a un monastère de femmes où je connaissais bien la mère supérieure. Et il y avait un reportage sur eux dans cette émission qui dure une demi-heure. Et elle m'a engueulé, elle était furieuse. Elle m'a dit, c'est bonne femme, t'es bonne femme, aucun intérêt, comment peut-on aller au monastère? Elle m'a fait une scène à la Monsieur Homais. Et alors, je lui dis, mais enfin, pourquoi tu dis ça pour te contrarier? Tu ne connais pas, tu n'as pas les choses du monastère, je t'assure, c'est la mère supérieure. J'en ai rien à foutre de ta mère. Elle m'a engueulé. Et donc, c'est pour ça qu'elle n'aurait été pas du tout d'accord de vous dire que si vous avez entendu dire que nos amours étaient liés au divin. Mais en fait, elle avait tort, parce que c'est vous qui aviez raison. Mais elle ne le savait pas à l'époque. J'espère que maintenant, on a pris conscience. Voilà. Et pour le reste, alors que vous avez des choses très gentilles sur moi, je crois qu'il y a des gens littéraires. Il y a des gens littéraires. Les professeurs en ont besoin. Les historiens de la littérature en ont besoin. Et moi-même, enfin, l'éditeur, quand on fait page du même auteur, œuvre du même auteur, on met roman, poème, essai, journal intime, etc., etc. Mais finalement, un écrivain, c'est quand même tout sort de là, n'est-ce pas? C'est le même cœur, c'est les mêmes petites cellules grises, comme dirait Hercule Poirot, c'est les mêmes tripes, c'est la même main, c'est le même stylo, voilà. Il y a quand même une unité d'une œuvre. Et par exemple, pour un écrivain que j'aime beaucoup, que j'admire, je serais fou de joie, pour donner un exemple d'un de mes maîtres, je serais absolument fou de joie si l'un de vous m'apprenait ce soir qu'on a découvert un poème inédit de Baudelaire, mais je serais également fou de joie si l'un de vous m'apprenait qu'on a découvert une page inédite de ses journaux intimes, Fusée ou Mon cœur mis à nu. J'aime Baudelaire dans sa totalité. Cela dit, il y a des genres qu'on peut aimer plus ou moins. Il y a des genres préférés. Il y a, par exemple, je parle de Baudelaire, il y a des gens qui disent que son roman, La fanfare l'eau, n'est pas ce qui a été écrit de plus important. Mais l'importance, vous savez, l'importance d'un écrivain ou d'un peintre ou d'un cinéaste ou d'un sculpteur, de ce que vous voulez, est très subjective. Je veux dire, l'important, il n'y a pas de bibliothèque idéale, il n'y a pas de cinémathèque idéale. Chacun d'entre nous doit aimer les œuvres qu'il aime, qui dans son adolescence, sa jeunesse, l'ont marqué. Il faut d'abord y être éternellement et reconnaissant. J'aime pas les gens qui renient leurs admirations. Oh, moi, je mets ça quand j'avais 15 ans. J'ai rompu une fois avec une jeune fille qui était d'une beauté absolument stupéfiante. Mais elle m'a dit, le courrier était arrivé, il y avait un livre de Cioran. Et j'étais très lié d'amitié avec Sioran, et j'adorais Sioran comme écrivain avant de le connaître, et je l'ai encore plus aimé parce que c'était un homme merveilleux, on a eu une grande amitié. Eh bien, elle m'a dit, oh, Sioran, elle avait encore le livre qui lui sortait, je ne sais pas, elle avait 20 ans, elle était étudiante, elle me dit, oh, Sioran, oui, je lui sens en terminale, mais donner, de dire, bon, maintenant, non. Et ça m'a tellement énervé, j'ai rompu. Je lui ai dit, bon, je n'admets pas qu'on dise qu'on parle de, comme ça devant. Puis je lui ai dit, c'est pas tellement parce que c'était un ami que je l'admire, j'ai dit, tu renies quelqu'un qui t'a fait battre ton cœur plus vite quand tu avais 17 ans. Mais c'est terrible, ce reniement. Il faut rester reconnaissant. On peut évoluer. Hein, on peut, y a bien, les hommes de politique passent bien de droite à gauche. Nous, on peut passer d'Orson Welles à Godard et ensuite revenir à Billy Wilder et ensuite pour finir par Stroheim et n'aimer plus que le cinéma muet en vieillissant. Mais je veux dire, il faut rester. On peut évoluer, on peut changer, on peut être végétarien et ensuite se taper des beefsteaks saignants tout le reste de sa vie. Mais il ne faut pas pour autant renier la période où on était végétarienne et en dire du mal. En tout cas, pour parler sérieusement, moi je reste fidèle à mes amitiés, je reste fidèle à mes admirations et je reste fidèle à ma mémoire. Ce qui est affreux. Et en tout cas, ce qui est affreux, c'est le reniement. Parce que la civilisation, c'est la mémoire. La civilisation, c'est... Et alors, c'est vrai des civilisations, vous voyez ce qui se passe, enfin, la barbarie brûle les livres, elle détruit les statues, elle pilonne les... C'est parce que la barbarie veut oublier, n'est-ce pas? Il y a une très belle page de Jean Kelevitch sur les camps de concentration où il montrait que le but de cette nuit et brouillard, c'était qu'il n'y ait pas de traces, n'est-ce pas? Là, Attila, après, il n'y a pas de traces, tout est rasé, n'est-ce pas? Et l'écrivain, je le dis, j'ai eu le plaisir en arrivant de revoir dans cette salle une jeune auteure. Mélanie Sadler, avec qui j'ai fait une brillante, nous avons été très brillants tous les deux, n'est-ce pas? C'est une émission, la grande librairie de Bunel. Et bien, je parle sous son note. Et bien, je lui dis, nous sommes les gardiens du temple. Les autres oublient, nous notons, nous n'oublions rien. Et il y a des gens qui, dans leurs amours, ensuite, ont besoin, bon, peut-être que humainement, c'est compréhensible. Il y a des gens qui ont beaucoup souffert d'une rupture, par exemple, et ils préfèrent ne pas y penser. Mais je trouve que, alors, ce n'est pas des écrivains, parce qu'un écrivain, il doit tirer une œuvre de ses souffrances morales, mais aussi physiques. Moi, un de mes meilleurs romans, je l'ai écrit en pleine crise de colique néphrétique. Et en attendant l'infirmière secourable qui viendrait me piquer la morphine, je prenais des notes. Nous n'irons plus au Luxembourg, c'est mon deuxième roman, j'étais très jeune. Et je prenais des notes sur la colique néphrétique, sur les douleurs que j'éprouvais, parce qu'après, je n'aurais même pas pu les recréer. Et les médecins m'ont félicité sur la précision de mes descriptions. Et parce que je frenais, il faut saisir sur le vif. Il faut saisir, l'écrivain est celui qui saisit, qui se souvient. Et c'est d'ailleurs pourquoi dans les périodes troublées, c'est toujours eux qu'on fusille en premier, parce qu'ils sont là, les écrits restent. Hein, les écrits restent. Et nous sommes comptables de tous nos écrits. Nous sommes...
Si vous me permettez,
je vous en prie, revenons à mes deux livres. Alors,
nous venons à vos livres justement parce que il me semble, quand j'ai brossé rapidement panorama de votre œuvre, j'ai parlé de vous comme un diariste, mais j'ai envie de dire que vous avez tenu votre journal comme un romancier, c'est-à-dire que vous n'avez pas du tout cherché à faire la chronique du temps. Le temps transparaît dans vos journaux, mais c'est véritablement en romancier que vous les avez tenus. Et nous savons, vous avez de nombreux lecteurs dans la salle ce soir, nous savons que vous considérez que cette période, à bien des égards, est close. Les carnets noirs, la période des carnets noirs, que vous considérez comme étant un livre.
Voilà, je peux vous interrompre.
Bien sûr.
Je voulais simplement dire qu'à un moment, Je pense à ça quand je vois les toiles, une immense toile, je crois que ça s'appelle Les Noces de Cana au Louvre, une de Véronèse. C'est une toile d'ailleurs que Napoléon a piquée aux Vénitiens, je crois me souvenir. Mais enfin, elle est au Louvre maintenant, immense, mais trois fois grande comme ce mur. Maintenant. Et alors, il y a un moment, je me dis, mais il y a bien un moment où Véronèse s'est dit, ah, je vais mettre encore un peu de bleu, un petit peu de rouge, un petit peu de vert, pourquoi pas. On se dit, quand même. Eh bien, il y a un moment, il a dit, punto e basta. Il a signé. Et après, il est passé à autre chose. Eh bien, moi, les carnets noirs, parce qu'un journal a beau être très spontané, très comme ça, très désordre, il y a un moment, c'est quand même une œuvre d'art dans mon esprit. Et à un moment, j'aimais bien, la première phrase, je l'ai écrite quand j'avais 16 ans, et quand j'ai eu fini, le 31 décembre 2008, je me suis dit, j'ai décidé que c'était terminé. Comme vous l'avez dit, de ces années-là, entre 53 et 2008, il y a encore 18 années inédites, que je ne publie pas parce que c'est sans doute parce que je lui montre trop polisson, n'est-ce pas? Donc, je dois dire que je suis très heureux d'avoir publié certains volumes dans les années 80 et 90, parce qu'aujourd'hui, je pense que ils sont publiés, maintenant ils sont indestructibles. Mais je pense que les avocats de Gallimard me disent oh là là. Donc, moi, je publie mon journal de mon vivant, pas du tout par esprit de provocation de quoi que ce soit. Je suis absolument pas un provocateur. Je suis le contraire d'un histrion. Je suis un garçon extrêmement bien élevé. Mais parce que je ne voulais pas prendre le risque que mes héritiers, le caviar, ou le, on dit que Madame Tristan Bernard, Madame Keck, Paul de Carotte, c'est Tristan Bernard, non? C'est pas non, c'est Tristan Bernard.
C'est Jules Renard,
voilà. Je savais que ça s'habillait en art, n'est-ce pas? Jules Renard, il paraît que sa femme a brûlé 5000 pages du journal. Il paraît que toutes les pages, je lui disais de mal d'elle, n'est-ce pas ce qu'il dit? Donc, je sais pas. Donc, il aurait mieux fait de publier de son vivant. Mais voilà. Donc, je publie de. Et alors là, maintenant, c'est. Oui, alors, vous avez eu raison, Jérémy, de dire que c'est une période close, que je voulais close, parce que c'était le journal d'un aventurier, d'un séducteur, d'un
voyageur.
Mais ça, je suis lui moins parce que c'est pas moi qui suis. Ben voilà, c'est comme ça, mon cher. Je dois dire que la console, les gens qui sont très laids quand ils sont jeunes, ça, par exemple, il paraît que ça fait beaucoup souffrir Sartre quand il était jeune. Les gens très laids, et Sartre aurait dit, est-ce que c'est vrai? Il aurait dit, mais je pense que c'est vrai parce que d'abord il avait de l'esprit, ensuite il disait ce qu'il pensait, il disait, je donnerais 10 ans de ma vie pour être pendant 24 heures ressemblé à Alain Delon, n'est-ce pas? Et c'est assez émouvant cette phrase, il était vraiment très très vilain quand il était jeune. Mais ensuite, les gens laids quand ils sont jeunes et qui en souffrent, ont cette satisfaction de voir que les beaux deviennent moins beaux et finalement, dans le grand âge, les laids et les beaux se rejoignent comme ils se rejoindront un jour... au cimetière, disons. Évidemment, je suis moins joli garçon que quand j'étais caracolant. Je suis caracol moins, mais enfin. Disons que les carnets noirs sont un journal de quelqu'un qui a une vie très agitée. Et là, pour des raisons que se déroulent d'ailleurs dans ce journal, disons, la maladie, des choses comme ça, enfin, peut-être une certaine lassitude d'exister, fait que je caracole moins. Et donc, c'est un journal, disons, un journal de vieillesse, osons le terme, n'est-ce pas? Je voulais l'appeler en latin, ça passe mieux, parce que les gens ne comprennent pas, De Senectute. Mais comme le titre était déjà pris par Sénèque, j'y ai renoncé. Ensuite, je voulais l'appeler le boulevard du crépuscule, mais c'est le grand Billy Wilder que je vénère l'avait pris, donc je ne pouvais pas le prendre. Et finalement, j'ai choisi cette phrase qui est une phrase du livre. En relisant le livre avant de le donner chez Gallimard, j'ai tombé sur cette phrase. Je dis, ah là là, je relis mes journaux de jeunesse, enfin la jeunesse, la prunelle de mes yeux, justement, à l'Union luthérane. Je dis, ah, j'avais une vie, quelle vie passionnante j'avais là, agitée. Mais la musique, soudain, s'est tue. Bon, je suis là, elle ne s'est pas tout à fait tue, mais enfin, disons qu'elle est. On est passé de, je suis passé de la Ferrari à la vieille guimbarde de l'inspecteur Colombo, si vous voulez. Donc, mais enfin, pour donner une image. Mais
avec ce livre, mais la musique soudain s'est tue. Pour vous citer, vous êtes le scribe. Je cite Gabriel Masneff. Vous êtes le scribe de votre propre crépuscule, et vous le faites, je dirais, d'une manière tout à fait stoïque, d'une manière sereine.
Vous pourriez dire épicurienne, parce que sur ce point, oui, les stoïciens et les épicuriens convergent, n'est-ce pas?
Absolument.
Ou chrétienne ou bouddhiste. Les gens bien disent tous la même chose. D'ailleurs, au lieu, les gens qui opposent les religions, c'est très à la mode maintenant, le conflit des religions. Moi, ce qui m'a toujours frappé, ce qui m'a toujours passionné, c'est plutôt la convergence, pour employer le syncrétisme, si vous voulez, et la convergence, car sur des points essentiels, comme un point que je vais vous dire et qui joue un grand rôle dans toute mon œuvre. Disons, j'aime pas les mon œuvre, disons mes livres, dans tous mes livres, qui joue un rôle très important. Attendez, j'ai fait une si belle phrase que je n'arrive pas à y retomber dessus, j'ai oublié ce que je voulais dire.
Vous étiez parti du syncrétisme.
Oui. Eh bien, moi, ce qui me frappe, c'est que sur des points essentiels, dont je vous dirais, le Bouddha, Épicure et le Christ enseignent exactement la même chose. Et les stoïciens aussi, car il y a tout un traité sur cette question de Sénèque. Donc, sur les points essentiels, ils disent la même chose. Et un des points essentiels, c'est... vous connaissez, ou sur lesquels ils disent vraiment la même chose, c'est savoir cueillir l'instant fugitif. Le Bouddha le dit, et tous ceux d'entre vous qui ont lu des textes bouddhiques le voient, que c'est une obsession du Bouddha, soit dans ce que tu fais là, tu prends la parole devant, tu es à la librairie, ben là, soit dans ta librairie Mola, quand, voilà, chaque moment doit être, on doit vivre à fond le moment. Bouddha et Épicure n'aiment pas les gens qui mangent distraitement, sans savourer ce qu'ils mangent, qui boivent sans comprendre qu'ils boivent. Voilà, il faut être dans l'instant. Et c'est cette phrase extraordinaire, mais c'est le Christ qui l'a dit, mais ça aurait pu être dit par le Bouddha ou par Épicure, cette parabole qui est vraiment sublime. Les athées anticléricaux ont tort de ne pas lire l'Évangile, parce que c'est comme des trucs vachement bien, des trucs extraordinaires. C'est la parabole d'Ulysse Deschamps, dit « Ne t'inquiète pas du lendemain, le lendemain s'inquiétera pour lui-même », n'est-ce pas ? C'est une phrase extraordinaire, c'est une phrase qui vous rend la tranquillité de l'âme. Et le Bouddha a dit les choses, Épicure aussi, mais le Christ a dit. Donc ça, c'est vraiment une des plus belles paraboles sur l'Élysée des champs, sur l'insouciance. Ce sont des professeurs d'insouciance. Et nous devons, et moi, je suis un professeur d'insouciance, je crois, d'insouciance avec le tragique, hein, je veux dire, dans le roman La lettre au capitaine Brunner. Le capitaine Brunner est un officier SS, bras droit d'Hibler, et qui fait surgir dans mon univers romanesque d'une manière que nous ne dévoilerons pas, parce qu'il faut que les lecteurs aient la surprise. Il y a un côté enquête policière. C'est un secret. Il y a un suicide, un garçon qui s'est suicidé il y a très longtemps, et on pensait que c'est un chagrin d'amour. Et en fait, on découvre en ce moment que ce n'est pas un chagrin d'amour, qu'il y a une autre raison beaucoup plus tragique qui l'a fait se donner la mort. Mais donc, et si vous voulez, j'y pensais encore aujourd'hui. J'étais dans le métro, je ne serais pas encore, je ne serais pas arrivé ici.
Dans le train.
C'était dans le train, le merveilleux TGV, la SNCF, qui m'a porté de la gare Montparnasse à la gare Saint-Jean. Et je lisais dans La Repubblica. Et dans La Repubblica, il y avait une très, très belle interview, très, très émouvante, et très juste, d'autant émouvante, parce que ça m'a ému, de Pellegrini, de la Pellegrini, qui est une grande championne olympique de natation, la plus grande. Voilà. Et elle parlait de cette camarade, de cette amie qui a trouvé la mort de la façon, vous savez, dans un accident d'avion, d'hélicoptère. Elle disait c'est là qu'elle a compris, il y a une phrase très belle, il dit, on lui a demandé le journée, je dis, mais vous étiez amis, vous étiez rivales, vous étiez rivales, oui, nous étions rivales, nous étions amis, et combien de fois j'ai entendu son souffle quand on attendait, j'ai entendu son souffle à côté de moi et son cœur battre à côté du mien, ça m'a beaucoup, c'est très très émouvant, et elle disait, ça m'a fait comprendre qu'il faut vivre chaque instant à fond et avec intensité, parce que c'est une vie brise comme ça, une vie si jeune, n'est-ce pas ? On se rend compte, alors on sait toujours que c'est, on le sait en théorie, même sans avoir lu Sénèque ni Épicure ou même l'Évangile, on sait que la vie est fragile, nous sommes fragiles, tout peut arriver. Mais c'est pour ça, il faut pas en prendre du cafard ou du désespoir, et il faut au contraire puiser dans cette conscience du caractère éphémère et fugace de la vie et des moments de bonheur, justement un appétit de vie. Moi, je crois que si j'ai un mérite, j'ai beaucoup de défauts. Hein. J'ai beaucoup de défauts et je suis désolé d'avoir tant de défauts. Mais enfin, c'est comme ça. Mais j'ai aussi une qualité, c'est que je crois que j'ai infusé à mes lecteurs et à mes lectrices ce sens du bonheur, ce sens de cette... On peut dire, c'est rien d'original, hein, disons, de l'amour de la vie, d'être vivant et de remercier. Et il faut qu'on a un moment de bonheur, qu'on a un moment très intense. D'abord, quand on est écrivain, on peut les noter. Donc, c'est déjà, même si on n'est pas écrivain, il faut quand même les noter, au moins pour s'en souvenir. Et puis, en être connaissant, toujours Si on est en, si on est croyant, on peut remercier Dieu, mais enfin, ce n'est pas la peine d'être croyant pour avoir un acte intérieur de reconnaissance, de vivre. Mais tout à l'heure, quand je suis arrivé, à Paris, il faisait froid, il y avait du vent, il faisait un peu froid. Et quand je suis arrivé par le train qui arrive à 13h42, je suis arrivé dans la gare Saint-Jean. Il y avait une chaleur estivale. J'aurais pu me croire à Manille au mois de mai ou à Naples au mois de juin. C'était absolument un enchantement. Et j'ai savouré ce moment. Voilà, déjà, il fait plus froid, donc j'ai eu raison. Parce que là, déjà ce soir, quand je suis sorti de mon hôtel pour revenir ici, il faisait déjà plus froid. Mais c'était un moment qui m'a mis dans un grand, grand bonheur.
Vous m'accorderez la possibilité de dire que vous... Vous êtes un être et un écrivain présentant de plusieurs qualités, notamment celle de l'admiration. Vous êtes un homme qui admirait. Vous n'êtes pas un homme du dénigrement. Vous admirez. C'est constant dans vos livres. Et vos livres, vous venez de l'expliquer, vous venez de le rappeler à une partie de l'assistance. Vous êtes la matière de ces livres. Vous les nourrissez. Votre trajectoire personnelle constitue le matériau essentiel, y compris pour le roman. Vous ne vous mettez pas en scène, vous distribuez en quelque sorte les rôles. Il y a toutes les structures que nous connaissons de dédoublement, de rappel, de mise en abîme. Mais il est extrêmement instructif de lire vos journaux et vos romans en parallèle, parce que l'on s'aperçoit qu'il y a une cohérence très forte dans l'ensemble de votre œuvre, et que tel ou tel personnage, à bien des égards, ce n'est pas exclusivement vous, mais c'est un peu de vous, y compris dans la lettre au capitaine Brunner, où l'on peut repérer des éléments de caractère ou des situations, quand on vous connaît un peu, qui peut-être font écho avec des choses de vous ou que vous avez pu vivre, les personnes que vous avez pu rencontrer. Je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que, à bien des égards, vous êtes un romancier et vous écrivez de la fiction, mais cette fiction, elle subsume la catégorie habituelle de dire il y a le vécu d'un côté et puis l'imagination de l'autre, parce que votre imagination, elle est de plein pied dans l'existence et dans votre existence.
Oui, vous savez, je pense qu'un artiste, quel que soit l'art qu'il exerce, la littérature dans le cadre qui est le mien, mais on pourrait imaginer d'autres formes artistiques, évidemment, ne peut créer qu'à partir de sa propre expérience, sa expérience des êtres, l'expérience qu'il a du monde extérieur, qu'il a de soi. Et donc, c'est curieux, l'exemple le plus célèbre de quelqu'un qui enseignait d'une manière presque théorique qu'un écrivain ne doit pas se mettre dans ses livres, surtout rien d'autobiographique, etc., c'est Flaubert. Eh bien, sans même parler de Madame Bovary, c'est moi, ça c'était un peu une boutade, on a cité tellement cette phrase, c'est une façon, on pourrait dire, c'est pas le sujet ce soir, mais je pourrais un jour vous expliquer ce qu'il voulait dire par là. Mais quand vous prenez un roman que je connais bien, puisque je l'ai étudié à la Sorbonne, il était au programme quand j'ai passé quand je suis arrivé à la Sorbonne en licence, c'est l'éducation sentimentale. Eh bien, le professeur, dans ce grand théoricien qui dit qu'on ne doit surtout pas faire des romans autobiographiques, le professeur, qui était un spécialiste de Flaubert, nous mettait un nom, non seulement sur Madame Arnoux, qui était Madame Flessinger, tout le monde savait que c'était un amour, Flaubert n'a jamais couché avec elle, c'est comme dans le roman, c'est une femme dont elle était follement amoureuse, il ne s'est jamais rien passé, parce qu'il y avait toujours des circonstances qui faisaient, et puis je crois qu'elle n'avait pas envie de coucher avec Flaubert, tout simplement. Finalement, c'est les femmes qui décident, messieurs, vous le savez bien. Bref, il n'a pas couché avec elle, de même que Thomas Mann n'a pas couché avec le jeune Taddeo, d'ailleurs, s'il avait couché avec lui, peut-être qu'il n'aurait pas, ça n'aurait pas inspiré la mort de vie. Donc, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'un écrivain finalement fait pierre, tout porte pierre. Les malheurs, les joies, les souffrances, plus d'ailleurs que le bonheur. Le bonheur un peu écrit blanc, hein, vous savez, dans les contes de fées de notre enfance, les contes d'Andersen, les contes de fin. Il n'y a histoire, il n'y a intrigue que quand la jeune princesse est endormie par la vilaine sorcière et le jeune prince transformé en crapaud par la même vilaine sorcière. Mais le jour où le prince redevient un beau jeune homme et d'un baiser chaste, mais enfin un baiser quand même, réveille la jeune princesse, Ils se marièrent, vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants, point, l'histoire est finie, n'est-ce pas? Donc, le bonheur, j'ai amené mes romans, le roman le plus autobiographique de mes romans, c'est Isaïe, réjouis-toi. Et Isaïe, réjouis-toi, c'est le chant que dans l'église orthodoxe, on chante, alors on couronne, vous savez, rien pour ça, il faut se marier au moins une fois à l'église orthodoxe, parce que ça vaut le coup, alors vous êtes couronné de couronnes, soit des enfants de cœur qui vous les portent surtout, enfin bref, passons, j'abrège le rite. Et alors on chante, le cœur chante Isaïe, réjouis-toi, etc. Emmanuel, enfin un fils aîné, enfin c'est un hymne à la vie, enfin bref, c'est très beau. Eh bien, je me suis dit, quand je me suis marié, après beaucoup d'hésitations, j'ai attendu d'avoir l'âge de Tolstoï pour me marier. Je me suis dit, Tolstoï s'est marié à 34 ans, mais après, la comtesse Tolstoï, après, il a rattrapé le temps perdu, parce que la pauvre, elle n'était pas commode. Mais enfin, lui non plus, d'ailleurs. Mais moi, donc j'ai attendu 34 ans pour me marier, Et pourquoi je disais ça? Oui, de quoi parlais-je? Décidément, je pars, je n'aurais pas dû faire une parenthèse Tolstoï, parce que du coup, j'ai perdu le fil de mon raisonnement.
Peut-être si je rapporte votre propos à ce que je sais de votre existence, vous êtes marié, et ça a été à la fois une passion fervente, ardente, et une grande tragédie.
Oui, mais c'est pas ça que je voulais dire. Non, je sais pas, ça n'a pas d'importance. Je parle trop longtemps. Je sais plus de quoi en parler. Mais quand on a un enregistrement, la prochaine fois, on pourrait écouter l'enregistrement. Je reprendrai le fil de mon propos. Mais c'était assez marrant ce que je voulais vous dire. Mais tant pis, c'est pas.
Peut-être que cela va revenir, Gabriel. Et en attendant que cela revienne, je voudrais dire ceci. Dans Mais la musique soudain s'est tue, on voit un écrivain qui éprouve que le temps presse. L'une de vos obsessions, c'est d'être prêt que vos années inédites non publiées soient conservées. Il y a une lutte terrible pour que vous puissiez laisser les choses en ordre. Attendu, si je vous ai bien compris, que votre souhait, c'est que le moment venu, l'ensemble de vos journaux soit publié en une seule fois, pas d'une manière.
Une seule fois, il faudra les trois volumes de la Pléiade, parce que quand
mais
même,
du moins
ça
dans
fait
une édition. C'est oui. Votre souhait. Il y a une note dans le livre qui le dit.
Naturellement, oui. Non, mais le journal inédit est dans le coffre-fort d'Antoine Gallimard. Voilà. Qui a pu, voilà.
Vous avez donné des indications.
Non, mais c'est plutôt, pour parler de ce souci d'être prêt. D'abord, on n'est jamais prêt, comme c'est la phrase, je m'excuse de citer l'évangile comme ça, je suis beaucoup moins cubéni qu'il n'apparaît, mais enfin, c'est une des plus belles phrases, parce que saint Paul écrit beaucoup, beaucoup de conneries, et Suran les a soulignées, beaucoup moi aussi, d'ailleurs j'en ai souligné quelques-unes, mais c'est un très grand écrivain, et alors c'est cette phrase extraordinaire, n'est-ce pas? Le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. De la tragédie que j'évoquais tout à l'heure de cette jeune naseuse et de ses malheureux camarades d'infortune. Eh oui, le jour du Seigneur les a cueillis dans le ciel d'Argentine, trois minutes entre cette histoire incroyable de deux hélicoptères. Mais ça arrive, c'est arrivé à l'armée. Moi, j'ai vu, c'est très dangereux, les hélicoptères. C'est très, très instable. Et leurs deux hélicoptères qui se touchent, Ça explose. Enfin, bref, c'est l'horreur. Et donc cette phrase. Et donc j'ai eu deux de mes amis, des écrivains que j'aime et que j'admire et qui surtout étaient grands amis. L'un, Dominique de Roux, est mort à 40 ans en quelques heures d'une crise cardiaque, en quelques heures. Et l'autre, Guy Hockenheim, que j'adorais, qui était un homme merveilleux, est mort du SIDA aussi à 41 ans. Et donc, avec des œuvres inachevées, des œuvres brisées. Ce qu'ils ont publié est publié. Enfin, une œuvre brisée, voilà, c'est le jour du Seigneur arrive comme un voleur dans la nuit. Je veux dire, c'était écrit, n'est-ce pas? Voilà, c'est mektoub, n'est-ce pas? C'est le destin, disons-le d'une manière laïque, puisque le ministre de l'Intérieur nous incite tout le temps à la laïcité, n'est-ce pas? Il a raison d'ailleurs. Si j'étais ministre de l'Intérieur, qui d'ailleurs par ailleurs, c'est assez curieux parce qu'il est aussi ministre des cultes. Alors, ce ministre des cultes qui incite tout le temps les gens à la laïcité, c'est quand même un peu paradoxal. Mais les paradoxes font partie du charme de l'existence.
Je vous fais remarquer, Gabriel Masneff, tout à l'heure, quand je vous ai présenté comme l'un des derniers grands écrivains chrétiens, je vous ai fait sourire, mais vous ne cessez de citer les textes sacrés et les évangiles.
Mais je suis. Parce que le mot chrétien, je me sens bien indigne, n'est-ce pas? Je suis, disons, par maman, et puis je suis aussi païen, je suis beaucoup de choses. Mais enfin, comme chacun d'entre nous, d'ailleurs, ça n'a rien d'original. On est tous agités de contradictions. Et voilà. Alors, donc, j'ai vu ces deux garçons mourir. Par exemple, le journal, Jacqueline Deroux, la femme de Dominique, il écrivait, alors elle m'a montré des papiers. Il n'écrivait pas des journaux sur un carnet ou sur un cahier. Il avait une corbeille. Quand il avait une idée, il la jetait sur un bout de papier, il la jetait dans cette corbeille. Mais l'écriture, personne ne peut la déchiffrer. Personne ne peut la déchiffrer. Ça ressemble à l'écriture thaïlandaise, comme des nouilles, vous savez, c'est un truc. Personne. Et sa femme, son fils, tout le monde a essayé. Personne. Et donc, il y a pas mal de pages comme ça. On ne sait pas ce que c'est, mais enfin, c'était une sorte de carnet, des choses comme ça. Et il était éditeur. Lui, il avait une secrétaire. S'il y avait pensé, si on lui avait dit « Tu vas mourir en quelques heures à 40 ans », il aurait donné ses papiers, il les aurait dictés. On aurait un livre de plus de lui, un inédit de plus. C'est dommage. Donc, finalement... C'est pour ça que je vous donne, si vous écrivez, publiez le plus possible de votre vivant. Laissez le moins d'inédits possible. Ça, au moins, ça sera fait. Mais au moins, mettre en sécurité. Voilà, j'ai un peu cette obsession. Mais parce que, vous voyez, ce soir, j'ai beaucoup parlé de cette espèce de côté fugitif de la vie que le malheur peut nous frapper au coin de la rue. Et donc, ça entraîne chez moi... Quand je prends l'avion, je voyage, je bouge beaucoup. Encore là, ces dernières années, je suis beaucoup en Italie, je suis en France, je bouge tout le temps. J'adore sauter dans un train. Maintenant, les aéroports, c'est moins amusant. J'allais dire sauter dans un avion, mais maintenant, c'est plutôt la corvée, les aéroports avec toutes ces. Donc, mais les trains, encore, les trains, on monte, on arrive, on monte, c'est formidable. Et bien, quand je pars, surtout quand je prends l'avion, je dois dire, pas quand j'ai le train, je préviens une amie sur, on lui dit, tu sais, le manuscrit inédit est là. Donc maintenant, c'est à peu près ces dernières années, ces dernières années, j'étais très angoissée de. Et notamment, mon journal inédit, dont je vous dis qu'il était dans le coffre-fort d'Antoine Gallimard, tant qu'il n'était pas déchiffré, tapé par Bibi, j'étais un peu inquiet. Je le montrais à une amie, je lui dis, mais est-ce que tu penses que si je meurs brusquement, tu pourrais le déchiffrer? Oh là là, mais c'est illisible, on comprend un mot sur 10. Donc voilà, donc j'étais un peu soucieux de cela. Mais maintenant, j'arrive, comme le bon Dieu me donne beaucoup de vie, ou le destin pour l'instant, je suis encore bien là. Donc tout ça, ça se met à peu près au point. Maintenant, on n'est jamais prêt, d'ailleurs on est prêt, parce qu'être prêt, ça signifierait avoir cessé d'envie de vivre. Et moi, j'aime toujours autant... pour ne parler que de choses chastes, n'est-ce pas, sur sérieux, dire boire une bonne bouteille de vin, faire un bon dîner, voir une belle pièce de théâtre, un film, ou voir des amis, sans parler de choses plus passionnelles. J'aime autant ça que quand j'avais 18 ans, et même plus qu'à 18 ans, parce qu'à 18 ans, j'étais très comme ça, je pensais me suicider, tout ça. Enfin, j'étais un adolescent écorché vif, et certainement beaucoup pas heureux.
Je prends le risque d'essuyer une volée de bois vert. Au début de Mais la musique soudain s'est-tu, vous dites voilà, j'ai des soucis, je suis souffrant, il y a ces carnets qu'il faut conserver, est-ce que je vais avoir le temps? Je relis mes journaux, je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui est moins fringant que par le passé, je me sens moins en forme. Et j'ai eu le sentiment que, à partir du moment où vous avez mis en sécurité les années non publiées, on retrouve votre rythme, on retrouve Gab la rafale que l'on connaît et que l'on aime. Et que la fin de Mais la musique soudain s'est-tu est quasiment sur le même rythme et le même ton que les autres journaux. Il me semble qu'il y a un point névralgique à l'intérieur même du livre, un moment de doute et un moment où on ressent la force de la jeunesse.
Et vous savez à qui je dois ça ? C'est pas tellement que je me suis habitué à avoir des inquiétudes de ma santé. J'ai eu surtout des inquiétudes. Ça m'a fichu un coup au moral quand, après une biopsie, le médecin m'a donné des mauvaises nouvelles. Mais c'est curieux. J'avais décidé quasiment plus ou moins de tenir mon genre, parce que je vivais moins de choses passionnantes, et donc j'avais moins envie de tenir les choses que je notais, qui me paraissaient, je n'allais pas commencer à parler de prendre des notes sur ma maladie, ça n'a aucun espèce d'intérêt. En tout cas, c'est un peu déprimant pour le lecteur, si j'avais tout le temps des histoires de... Bref, donc c'était, ça m'intéressait pas d'écrire sur ces questions-là. J'écris un petit peu, c'est un petit peu là, mais enfin...
Avec voilà. Beaucoup de pudeur.
Surtout au début, comme vous dites. Mais un jour, c'était au mois d'août, j'aime bien dire en août, c'est un fait un peu vieux. Monterland, avec qui comme avec Chiron, j'étais lié d'amitié, il disait, alors ça c'est une question de génération, il avait l'âge d'être mon grand-père, mais enfin il disait juillette et août. Et je pense qu'aujourd'hui encore peut-être vieille personne, dans certaines provinces on dit juillette et août. Moi, juillette je ne le dis pas, mais août ça me plaît bien. D'ailleurs il y a le verbe outer, tout ça, ça existe encore en français, le verbe outer. Regardez dans Littré, vous verrez tout ce qu'il dit sur outer, c'est très intéressant. Bref,
Je disais
là encore,
j'avais relevé.
Ne me laissez pas faire des apartés. Pourquoi je vous parlais de Aouté?
J'avais relevé que dans votre.
Qu'est-ce que vous disiez?
Il y a un point névralgique.
Voilà. J'ai retrouvé.
Et je pense que je vous ai bien lu parce que.
J'ai oublié. Oui, non, mais oui. Voilà. Allez, je finis ma phrase parce que j'ai de nouveau oublié. Je suis très étourdi. Eh bien, en août, justement, c'est pour ça que j'avais fait une incise. J'aurais pas dû la faire. Au mois d'août 2011, je suis invité à prendre un café. Par le maire de Paris, qui était à l'époque M. Bertrand Delanoë, qui aime mes livres, qui est un, c'est pas un ami, c'est une relation amicale. Donc ce n'est pas assez pour dire d'un ami, mais enfin une relation amicale. J'ai dîné parfois avec lui chez des amis communs, bref, un homme fort sympathique et un très bon maire. Et il m'invite dans son bureau. Il a un bureau magnifique à l'hôtel de ville, qui fait l'angle aussi, un peu comme Mola, il fait l'angle, mais ça, tout à l'heure, bref, je cherchais un angle, je ne trouvais pas Mola, mais je dis oui, Mola. Alors, il a un bureau, et ce jour-là, il faisait très très beau, il y avait le soleil inondé, et j'étais dans son bureau, on parlait de Paris, on parlait de la piscine de Ligny qui avait disparu, on parlait d'un chose qui nous passionne, et à un moment, il me parlait de son travail. Moi, il me dit, mais vous, alors, est-ce que... Et alors, votre journal, on m'a dit que vous ne le teniez plus. Alors, j'ai dit, non, c'est vrai, je prends des notes. Vous voyez, je continue à prendre des notes, mais enfin, plus beaucoup, depuis 2009, là, voilà, parce que je ne vis plus rien d'intéressant, donc je ne peux rien... Et il me dit, mais Gabriel, il me dit, mais non, mais vous avez tort, votre journal, alors il faut que vous repreniez des notes, il faut que, ça vous avez tort, non, mais ça, je vais me fâcher contre vous, il faut absolument que vous repreniez ça. Et je dois dire, il faisait tellement beau, le soleil, la beauté de Paris, je le dis d'ailleurs dans une note, à partir de ce mois d'août, de mois d'août 2011, j'ai reparti, et c'est grâce à Delanoë, car quelquefois, c'était curieux, c'était une phrase dite, c'est la phrase, je vais encore citer un texte liturgique, je suis vraiment confus, parce qu'alors là, vraiment...
Nous sommes
en période de carême, n'est-ce pas? Donc c'est quand même en situation, il y a une phrase très belle qui dit « Dis seulement une parole et je serai guéri », n'est-ce pas? C'est une phrase qu'on dit, je crois, avant la communion, en fait.
Oui, bref, avant l'élévation.
Et avant l'élévation. Donc, « Dites seulement une parole et mon cœur sera guéri ». Eh bien, c'est une phrase sublime, parce que quelquefois, il suffit d'une parole. Il suffit d'une phrase lue dans un livre, à un moment. Il suffit d'un sourire dans la rue, parfois, pour nous redonner confiance, nous échapper au désespoir. Parce que chacun d'entre nous a ses moments de solitude, ses moments de découragement, pour ne pas parler de désespoir, ses moments de tristesse. Et quelquefois, une petite lueur vous redonne la pêche. Et cette phrase, je n'allais pas très bien à ce moment-là, voilà, je ne suivais pas de traitement parce que, je me suis donné un détail, mais j'avais après, ben voilà, j'étais dans une période d'inquiétude, je n'avais pas la certitude encore d'être, voilà, mais enfin j'étais inquiet, j'étais un peu déprimé, comme on dit aujourd'hui, genre, c'est un adjectif, disons, j'étais un petit peu giù di morale, comme disent les Italiens, j'avais le moral dans les chaussettes, pour faire une bonne traduction française.
Vous vous sentiez seul aussi? Un petit peu.
Oui, mais enfin, oui, on est toujours un peu seul, n'est-ce pas? Mais enfin, même si on est... Et quoi qu'il en soit, cette parole de Delanoë, dans son beau bureau du maire de Paris, qu'avait occupé avant Chirac, d'ailleurs, et le même bureau, toujours, mais c'est pas... Eh bien, ça m'a redonné, ça m'a redonné l'énergie vitale. Et effectivement, le livre est plus de peps, après. Voilà, vous avez remarqué.
À partir de la moitié du livre, on sent que la vitalité est là, de nouveau, et c'est sensible, y compris dans votre style, qui est beaucoup plus enlevé, il me semble.
Oui, sans doute. Mais vous savez, on dit que les lions, alors pour toujours parler du mois d'août, on dit que les lions, ça repart toujours. C'est c'est ce que disent les astrologues. Les lions, ça repart. Et moi, je suis lion 12 août. 12 août. Pour ceux qui veulent faire des cadeaux, 12 août. Et,
si vous me permettez, Gabriel,
oui, non, c'est loin.
Les personnes qui désirent faire des cadeaux à Gabriel Masneff ne doivent pas l'encombrer. Donc, si non. possible, des choses qui se mangent, mais pas de livres. N'offrez pas de livres à Gabriel Masneff. Il n'aime pas cela. Parce que c'est encombrant.
Oh, cher ami, ne dites pas ça dans une librairie. On est chez Mollard.
Mais je vous lis, Gabriel.
Non. J'ai m'excusé dû uniquement parce qu'il faut que. Non, on ne peut pas dire des phrases terribles comme ça. Je vais me faire expulser.
Non, pas du tout.
Non, écoutez, je suis, depuis l'âge de 14 ans, je viens chez Mollard. Et j'ai connu ce Mollard quand j'avais 14 ans. Ce n'était pas la magnifique librairie qu'elle est aujourd'hui. C'était une librairie plus intime, mais était déjà très respectée et très célèbre à Bordeaux. Eh bien, c'est uniquement au fait à l'exiguïté de la modeste garçonnière que j'occupe à Paris. C'est une. Elle est grande, pas grande comme cette table, n'exagérons pas, mais elle est beaucoup plus petite que cette salle, que cette pièce. Et donc, les livres s'empilent et je ne sais plus où les mettre. Tout est pris, il n'y a plus une place pour les rayons, parce que j'ai aussi des amis qui écrivent, j'ai aussi des gens. Donc, je disais, dans l'état où je suis, je ne suis pas un homme très bien organisé. C'est mon ami Solers qui, de temps en temps, me dit, Gabriel, il faudrait commencer à vivre un peu plus confortablement. Mais lui, il vit confortablement. Voilà, bref, c'est différent. On n'a pas les mêmes vies. Il est plus organisé que moi. Et voilà, je ne suis pas très organisé. Et donc, c'est pour ça simplement, je demande plutôt, offrez-moi du foie gras, une bouteille de vin, des choses qui se mangent et qui se boivent. Et ensuite, effectivement, je ne garde pas les bouteilles, je ne garde pas la boîte de foie gras. Mais autrement, j'adore les livres, évidemment. Je suis l'homme. Et j'ai écrit 2 livres. Il n'y a pas beaucoup d'écrivains qui, tout à l'heure, vous le disiez, qui disent leur admiration. Moi, j'ai une des grandes plus plaisirs, c'est de faire découvrir un livre que j'aime, un film que j'aime, un peintre que j'aime à quelqu'un que j'aime. C'est merveilleux de faire découvrir les choses qu'on admire pour les faire partager. Et j'ai écrit quand même 2 livres, 2 essais, l'un sur Byron, que j'ai découvert quand j'avais 15 ans, qui m'a beaucoup marqué. Byron qui m'a marqué, mais avant... Il en avait marqué d'autres. Il n'y aurait pas l'œuvre de Dumas, l'œuvre de Dostoïevski, l'œuvre de Baudelaire, l'œuvre de Flaubert, par exemple. On n'en citait que 4 s'il n'y avait pas eu Byron, n'est-ce pas ? On ne cite pas beaucoup. Je ne sais même pas si les professeurs d'anglais le font lire. C'est un très grand poète et un homme qui a marqué tout le 19e siècle européen. Donc, il y a eu Byron et ensuite, il y a eu Maîtres et complices, qui est un essai où je parle de plusieurs poètes, écrivains, philosophes et autres qui m'ont, à travers l'essai, qui m'ont marqué et qui m'ont aidé à devenir ce que lui je suis. Parce que notre travail, le travail d'un écrivain, le mien mais aussi celui des autres, c'est d'aider les gens à devenir eux-mêmes, d'aider à se connaître eux-mêmes, et ce sont des révélateurs. Vous ne mettrez jamais, le mot influence n'est pas le bon, parce que vous ne mettrez pas dans le cœur de quelqu'un quelque chose qui n'y est pas déjà. Mais les philosophes, les poètes, les cinéastes, moi, il y a des films, je pourrais, là, ça serait une autre soirée, je pourrais vous parler, faire une soirée ici pour vous dire, pour parler des films qui m'ont marqué et qui m'ont vraiment marqué, mais au sens propre du terme, parce qu'ils m'ont pas influencé du tout, mais où je me suis reconnu. Et c'est une reconnaissance. Les auteurs nous aident à nous connaître nous-mêmes. Et donc, quelquefois, quand un lecteur, une jeune lectrice ou une lectrice ou un lecteur m'écrit pour me dire que grâce à tel ou tel de mes livres, ça l'a aidé à un moment de s'accepter de ceci, enfin de n'importe quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, moi, je suis... comme dit pour reprendre le titre, un très beau titre de Maître et complice, c'est pas mal. Mais il y a un autre titre de Suran qui était patent, c'est Exercice d'admiration. Exercice d'admiration, n'est-ce pas ? Ça, c'est. Voilà, il faut dire. Moi, quand je suis dans un restaurant, on mange bien, j'ai dit au garçon, complimenter le chef, etc. Il faut toujours. Il faut complimenter les gens qui nous rendent heureux. Il faut leur écrire, il faut les. Moi, quand j'avais 10 ans, j'ai écrit une fois, la première fois, j'ai écrit à Errol Flynn. Parce que j'avais vu Robin Hood. Et j'avais vu Errol Flynn dans Robin des Bois. Et je lui avais écrit, monsieur Errol Flynn, Hollywood, États-Unis. Bien, et j'ai reçu quelque temps après une photo dédicacée. Et malheureusement, 3 ans plus tard, j'avais 13 ans. Donc c'est l'âge où on est quand même très amoureux, toujours. Et j'avais écrit à Ava Gardner. Et bien, elle ne m'a pas répondu. Et pourtant, j'avais joué une photo.
C'est injuste.
J'avais joué une photo de moi à cheval. Et quand j'avais 13 ans, j'étais très, très mignon. Très, très mignon. Ben, Ava Gardner... n'était pas du tout, elle n'était pas tentée par les moins de 16 ans, elle ne m'a pas répondu. Et voilà, c'est comme ça.
éventuellement, repoussez-moi dans mes cordes. Au début de « Mais la musique soudain s'étuse », page 47, vous écrivez ceci. « J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai créé ce que j'avais à créer. » Vous êtes très péremptoire. C'est le début. Nous sommes donc en 2009. Et vraisemblablement, en 2014, quand vous avez préparé le volume et que vous avez relu votre texte, peut-être corrigé les épreuves, vous avez ajouté une note à ce moment-là.
Ah oui, c'était une note récente.
En disant « Il me restait à écrire... » La note est datée du 5 septembre 2014. Oui. « Il me restait à écrire la lettre au capitaine Brunard, je le dis à la française. Je ne pouvais mourir avant de l'avoir écrit. » Certains secrets, nous devons nous en délivrer avant de descendre au tombeau. Alors ça m'intéresse beaucoup, pas tellement le secret qui m'intéresse, mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait qu'il y a une période récente, peut-être avec, comme on dit familièrement, un coup de mou, je ne sais pas, des soucis, des préoccupations, où vous estimez que votre œuvre est faite. Et puis, il y a ce roman qui s'impose. Et j'en déduis que vous l'avez rédigé et écrit très vite.
Je l'ai écrit bien après. J'ai remis le manuscrit du journal. En fait, parce que cette année, comme a dit, comme vient de le dire de Vesa, j'ai publié mon premier livre il y a 50 ans, ce qui ne rajeunit pas entre nous, se dit, mais enfin, nous faisons tirailler, n'est-ce pas ? On est quand même encore, ça va à peu près encore. Moi, je ne vais pas tirer, justement, non. Enfin, j'accepte mes rides.
Et, si vous me permettez, je crois, tout le monde le sait, vous êtes né en 1936.
Ah non, mais écoutez, ne rajoutez pas, il y a quand même des jolies femmes. Non, là, laissez-moi aller au bout de... Alors, du coup, quelle était votre question ? Moi, je ne sais plus. Je ne sais plus où j'en suis, moi. Alors, ah oui, vous disiez... oui, c'était... alors, donc, voilà. Comme je fêtais cette année mon 50e anniversaire de mon premier livre, de vie littéraire, mon jubilé, comme on dit, on le dit plutôt pour les évêques ou les choses comme ça, mais enfin, on peut dire aussi mon jubilé, c'est le mot français, jubilé, j'avais remis, donc c'était Antoine Gallimard, on va publier dans La Blanche ce journal. Et je lui ai remis, je pense, le manuscrit, je crois que j'ai signé le contrat et remis le manuscrit en janvier 2014. C'était prévu pour fêter l'anniversaire. Et c'est en avril, étant à Naples, que j'ai été saisi donc, par le besoin, l'envie, le désir et la nécessité, si je puis dire, je ne sais pas, d'écrire ce roman. Et j'ai commencé à l'écrire à Naples, et je l'ai écrit entièrement en Italie, enfin, aussi Naples, et puis Nice, mais Nice, c'est une ville italienne, Nice, n'est-ce pas ? Bon, Nice, Napoléon III, Cavour, Garibaldi, qui est né à Nice, n'a jamais pardonné à Cavour d'avoir cédé Nice aux Français. Ça. Bref, Nice, qui est un peu italienne, Venise, et Zagarolo, qui est à peu près de Rome, dans une propriété chez des amis, où je travaille toujours très bien. Et donc, et en fait, c'était imprévu, je n'avais parlé à personne de ce roman, parce que j'ai commencé à Naples, mais j'en avais écrit, je ne sais pas, 30 pages à Naples. Je me suis dit, peut-être que je vais le poser, et puis je le reprendrai plus tard. Je n'en ai parlé à personne quand je suis rentré. Mais quand il était terminé en août, et quand je suis rentré vers le 15 août à Paris, je l'ai donné tout de suite... la table ronde n'avait plus qui appartient à Gallimard. C'est une comme de Noël, comme le Mercure de France, comme POL. Ce sont des succursales. Enfin, ce sont des collections Gallimard, on peut dire, qui ont leur autonomie. Mais enfin, donc je l'ai apporté évidemment à la table ronde. Ils ont décidé, Gallimard et Alice Déon, qui dirige la table ronde, on s'est dit avec Antoine de le publier en même temps. Mais vous avez raison, cette nécessité m'est venue après. Et donc, ce roman est effectivement une écriture allègre. Même si un des thèmes, parce que cette histoire du capitaine Brunner n'est pas le thème unique, c'est une histoire parmi d'autres, c'est une histoire grave, dramatique, mais elle a donné le titre au livre, mais il y a beaucoup d'autres histoires, il y a même un mariage, non pas entre deux moustachus, mais entre deux dames qui s'aiment et qui sont françaises, mais qui vivent en Italie et qui décident de se marier dans un consulat français en Italie. Est-ce qu'ils y arriveront ? Et il faut lire le livre pour le savoir, n'est-ce pas ?
Le corps diplomatique est très ennuyé. Hein.
Le corps diplomatique, disons l'ambassadeur, voilà. L'ambassadeur France en Italie n'était pas n'était pas enthousiaste à cette idée, mais vous verrez, ça c'est bon pour lui, parce que il y a des choses, il y a de l'invention, comme disait tout à l'heure de Vézal, a tellement bien dit, je vais pas le redire, dans un roman et notamment dans les miens, il y a un mélange d'imagination, de choses notées, vues, vécues, enfin voilà, s'il y a un mix, c'est la chaudière aux sorcières, c'est le bouillon aux sorcières, n'est-ce pas? Voilà.
Mais alors vous savez, les critiques sont incorrigibles, ils pensent parfois lire plus savamment et plus finement les livres que les écrivains, et ils prennent le risque de dire des énormités. Vous avez confié quelque chose qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'en tant que lecteur de Gabriel Masneff, j'ai l'impression que vous êtes un écrivain aussi de l'Italie, vous avez une partie de votre patrie mentale en Italie, et il me semble qu'il y a deux villes importantes dans votre univers, c'est Naples et c'est Venise. Et pour moi, Naples, c'est quand même une ville de la vitalité, de la jeunesse, de l'exubérance, et votre Venise, c'est plutôt la Venise, oui, de Thomas Mann, c'est une Venise, oh, si celle de Chateaubriand.
Magari, comme disaient les Italiens, voilà. Si c'était possible, si, que Dieu voulu que ce soit, si c'était possible, non, c'est pas celle de... C'est pas celle de Thomas Mann, c'est pas celle de Chateaubriand, c'est celle du tourisme de masse, des amerlocs en short et à sac à dos qui pissent contre les murs des églises. Non, c'est là de Venise. Non, il y a des noms, il y a aussi des pages que je connais. Je vais à Venise depuis, c'était mon premier voyage après mon service militaire. C'était en 62, j'ai découvert Venise. Dans mon premier livre, qui est apparu en 65, donc là, Le Défi, il y a des pages sur Venise, déjà Venise. Donc l'Italie est très présente dans tous mes livres, surtout. Mes trois derniers romans sont des romans en partie italiens, c'est vrai, parce que je les ai écrits en Italie. Et vous avez tout à fait raison. Non, il y a une Venise qui n'est plus... Alors là, il y a une... Vous verrez, il y a une grande... Venise est présente, des conversations... L'un parle de la Venise, des menaces de la Venise, cette Venise morte, très appauvrie, etc., qu'on décrit notamment Byron et Chateaubriand, tous ces gens qui ont, après les guerres de Napoléon, etc., tous ces gens qui en sont allés à Venise ont été frappés par le délabrement de cette ville. Et il y a un dialogue, on pense à... ces gens de cette époque, de Byron à Barès, de Byron au début vers les années 1816-17 à Barès à la fin du 19e siècle, ont écrit sur cette Venise mourante, n'est-ce pas, mourante. Mais aujourd'hui, Venise meurt aussi, mais elle est devenue Disneyland, elle est venue Albergo Città, n'est-ce pas, la ville des auberges. Maintenant, les Vénitiens sont en train d'assassiner, si vous me lancez là-dessus, les Vénitiens sont en train d'assassiner Venise, c'est les Vénitiens, parce que personne n'oblige... quelqu'un qui a une charcuterie, les gens, quand la charcuterie, les charcutiers prennent sa retraite, les enfants veulent plus faire de la charcuterie. Ils préfèrent faire un magasin avec des faux masques vénitiens fabriqués à Taïwan. Et quand vous avez les gens, personne n'oblige les gens, quand ils ont un appartement, à en faire un bed and breakfast et eux d'aller partir, de vivre à Mestre. Et dès qu'ils ont quand ils ont la chance d'avoir une maison, ils la transforment en hôtel 3 étoiles. Moi, je vais, ces dernières années, certains d'entre vous sont allés régulièrement à Venise. Chaque fois, vous voyez des nouvelles maisons, des nouveaux étoiles, des nouveaux bed and breakfast. Toute Venise est à vendre, est à louer, etc. Donc, Et maintenant, à Venise, quand vous vivez à Venise, quand vous travaillez à Venise, moi, j'avais une amie très chère qui avait un sublime appartement. Donc j'ai écrit au moins une partie de mes derniers romans chez elle. Elle n'a plus, je dis, parle d'elle au passé. Non, elle vit en Vienne, mais elle n'a plus un appartement. Je devais faire, déjà il y a 2 ans, je devais faire... un kilomètre pour trouver une boulangerie, pour trouver une boucherie, pour trouver un serrurier, il n'y a plus que des magasins de fringues et des magasins de faux machins pour touristes. Et c'est comme ça qu'une ville meurt. Moi, j'avais des adresses, ça faisait des années que j'allais chez le meilleur... ce boucher était meilleur, on mangeait la meilleure viande d'Italie. Eh bien, il a disparu cette année. En 2014, je me suis rendu compte qu'il avait disparu. Un boulanger aussi a disparu. Et alors, bon, voilà. Alors, il y a quelques genres centres commerciaux, quoi, comme des Monoprix ou des... Enfin, mais bon, voilà. Donc, ça fait mal au cœur pour ceux d'entre nous qui aiment Venise, et c'est encore plus terrible pour les vieux Vénitiens qui essayent de s'accrocher et qui... et qui voilà, et derrière tous les bars sont des Chinois, non, mais, qui sont d'ailleurs très gentils, mais enfin ils sont quand même chinois, ils font le cappuccino, mais enfin ils sont quand même chinois. Vous savez, à propos, je voulais vous dire, non, j'ai dit parce que j'ai un peu sursauté quand on m'avait dit là, oui, sa patrie c'est la Russie. Non, moi je sais bien qu'aujourd'hui on parle beaucoup des Français de souche, des Français de des pâles et tous les autres qui sont pas de souche comme moi sont pas tout à fait des vrais Français, mais enfin je suis un écrivain français, c'est vrai, je suis d'origine russe et ça nourrit mon livre, ça encore le dernier roman, il y a surtout dans la partie qui évoque le passé, ce secret de famille avec ce Cyril qui s'est suicidé, on ne sait pas très bien pourquoi, alors on voit ces vieux Russes blancs des années 30 et la génération de mes grands-parents à Paris ayant tout perdu mais fringant, les aristocrates plus snob que jamais, ceux qui ont recréé les francs-maçons, qui ont recréé la loge maçonnique très chic où il y a toute l'aristocratie russe en exil à Paris qui est dans cette loge. C'est assez curieux d'ailleurs parce que en France, les gens qui sont francs-maçons sont réputés, disons, de gauche ou bouffards, enfin, je ne sais pas, vous voyez, eh bien, alors, dans l'immigration russe, moi, dans la génération de mes grands-parents, j'avais connu beaucoup de maçons qui avaient la loge assez qui est présent, et c'est une roche très chic, n'est-ce pas, il y avait toute la bonne société russe, elle était dans cette loge. C'est quand même un peu comme je crois que la franc-maçonnerie anglaise, n'est-ce pas, c'était, et en France d'ailleurs, je crois que c'était, moi je suis pas maçon, mais je n'ai pas le temps, ça prend beaucoup de temps, il paraît que moi j'ai des amis qui sont maçons, ils sont tout le temps dans des réunions, à écouter des conférences, ou à en faire, c'est beaucoup de travail.
Puis ils ont des tabliers, etc.
Et alors, ça c'est très bien les tabliers, moi j'aime bien les uniformes. Mais au XVIIIe siècle, c'était toute la noblesse française. C'était le duc d'Orléans qui était grand maître, je crois. Je ne sais pas pourquoi ça s'est gauchi. Il faudra poser la question à M. Valls, n'est-ce pas, ou à M. Hollande.
J'aurais une dernière question, Gabriel, concernant votre roman. Quand on vous lit, quand on vous a lu, on sait que l'homme, Gabriel Masneff, moi, l'écrivain aussi, vous n'avez jamais prêté une grande importance, je ne dis pas attention, importance, aux histoires de famille.
Et, non,
Ben, c'est le moins qu'on puisse dire. Cela ne vous a pas entravé, cela ne vous a pas...
Disons que... Non, je vous laisse parler. Non, parce qu'après...
Bon, ma question, je l'ai quasiment posée. L'une des façons d'entrer dans votre roman, c'est pas la seule, mais l'une des façons... il y a cette hypothèse que j'énonce et que je formule. L'auteur me donne l'impression qu'avec ce roman, c'est une manière supplémentaire et peut-être définitive de s'alléger du poids de la famille.
Vous avez raison, parce que dans ce roman, il y a beaucoup d'histoires, mais il y a entre autres une histoire de famille qui est fort pénible, et le reste du roman, si je puis dire, c'est une histoire la seule qui pour moi est la famille, c'est la famille spirituelle, la famille d'élection, c'est-à-dire l'amitié, les amis, les amours et les amis. Vous avez tout à fait raison, dans ce roman, il y a l'aspect la famille officielle, et là, il y a un des personnages, il y a comme ça quelqu'un dont les gens n'aimeraient pas tellement être le parent, hein. Et puis il y a l'amitié, parce que ces gens, c'est ce couple de lesbiennes dont je vous parlais, il y a un moine, le moine Gerasim, oui, qui est un personnage important dans...
Nathalie, je trouve très attachante.
Oui, qui est, donc c'est une des deux femmes lesbiennes, oui, n'est-ce pas ? Il y a le père Gerasim, il y a un cinéaste, Raoul Dolé, qui a presque aussi mauvaise réputation pour ses films que l'écrivain Gabriel Masneff, enfin aux yeux de certains puritains, de certaines quakeresses, de certains pharisiens, de certains hypocrites. Eh bien...
Vous êtes en forme,
donc,
Gabriel.
C'est Bordeaux, c'est l'air de Bordeaux. Il y a ces deux familles, ces deux conceptions de la famille, effectivement, la famille officielle. Cela dit, c'est pas du tout... Moi, je connais, vous en connaissez tous, enfin, j'espère, des familles où les enfants et les parents s'entendent bien, où il y a une harmonie, et ça, je dois dire, absolument, combien de familles sont... Moi, pour ma part, je me sens beaucoup plus proche d'une lectrice que je ne connais pas, que je ne répète jamais, mais qui aime mes livres, qui s'y reconnaît, enfin, à qui j'apporte quelque chose, que telle nièce qui porte mon nom de famille. Moi, j'ai deux frères, entre autres, j'ai une sœur et deux frères qui passent leur temps à faire des gosses. Donc, il y a des petits Matzneff qui courent partout. Mais il y en a peut-être un ou deux dont je pense le neveu, nièce, qui peut-être lisent mes livres. Ils ne se font jamais, je ne les vois jamais, ils ne me réagissent jamais. Bon, pour moi, je suis sûr que pour moi, ma famille, c'est beaucoup plus cette lectrice inconnue que telle nièce qui n'a rien à foutre de ce que je fais et de ce que j'écris. Donc voilà, alors je trouve qu'on exagère. Alors là, il y a des langues, mais ça, c'est un terme récurrent, comme on dit à la Sorbonne chez moi. Je trouve qu'on en fait trop sur la famille. Depuis, bon, le pape, il parle de la famille chrétienne et les évêques en parlent, etc. Les gens de gauche aussi, de la défense de la famille. Tout le monde défend la famille, mais... Quand on sait, entre nous, c'est dit, vous parliez de christianisme, quand on voit, quand on lit dans ce que pense le Christ de la famille, n'est-ce pas, depuis le jour où à 12 ans il fugue, n'est-ce pas, et ses parents sont inquiets, ils le cherchent, où est-il, alors ils le retrouvent parmi les docteurs, vous vous rappelez de la scène, et alors, et le Christ dit, oui, mais il ne pourrait pas comprendre, enfin, il prend sa mère et son père pour des benêts qui ne comprennent pas, n'est-ce pas, comme un adolescent révolté qui dit, mes parents ne comprennent pas. On a tous été un peu comme ça, pas toujours aussi précoce que le Christ, qui commence déjà à 12 ans, n'est-ce pas, à considérer que ses parents ne le comprennent pas, mais enfin, voilà. Mais, et puis, là, vous savez, quand quelqu'un vient lui dire, c'est exactement ce que je dis, là, Seigneur, votre mère et vos frères vous attendent. Et il répond, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent ma parole et qui la suivent, n'est-ce pas? Donc la famille spirituelle, beaucoup plus que la famille officielle, Joseph le menuisier, la Sainte Vierge, etc. Donc c'est quand même... Je ne veux pas blasphémer, hein, j'ai beaucoup de respect pour la Sainte Vierge, ce n'est pas la question. Mais enfin, c'est pour dire quand même que la famille chrétienne, les développements sur la famille chrétienne, je trouve ça ahurissant, absolument ahurissant, que c'est un sujet qui n'intéresse absolument pas le Christ. Il n'en parle jamais, n'est-ce pas? Il en parle pour en dire du mal, n'est-ce pas?
Si ma mémoire ne me trahit pas, il me semble que...
Si ma mémoire est bonne, voilà. C'est ça.
Je crois que dans l'Évangile selon Matthieu, Pasolini a filmé cette séquence et reprenant à la lettre le texte de l'Évangile de Matthieu concernant justement la mère et la
fratrie. La mère est admirablement filmée. D'ailleurs, c'est sa maman qui a joué...
Absolument. C'est la mère de Pier Paolo Pasolini qui joue Marie.
Marie,
oui. Absolument. Eh bien, ce que je propose, c'est que, en votre nom à tous et à toutes, je remercie Gabriel Matzneff d'être venu et de nous avoir accordé un peu de son temps. Merci beaucoup, Gabriel Matzneff.